Bonjour, bienvenue à ce 64e Disto Show et merci d'avoir appuyé sur ce piton-là. George Orwell, voyageur du temps, prophète ou produit de son époque. Ah, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Le roman suprême, 1984, écrit par George Orwell en 1949, a reçu quand même un accueil chaleureux, mais pas unanime. Si la plupart l'ont décrit comme un livre de grande qualité, sa véritable profondeur n'était pas encore observable, car à la date de sa publication, la plupart des événements ne ressemblaient guère à la réalité du monde démocratique et libre. Cependant, beaucoup de temps s'est écoulé depuis la création de 1984, et de manière assez effrayante, de nombreuses idées d'Orwell ont en fait porté leurs fruits. Bien que l'œuvre majeure d'Orwell résiste à l'épreuve du temps, il est possible qu'aujourd'hui encore, nous sous-estimions gravement ces descriptions prédictives, car nous ne savons pas quels aspects de cette histoire vont se réaliser. L'influence étendue et l'absorption générale de ce 1984 vont si loin qu'il n'est pas nécessaire de développer ou de raconter à nouveau l'histoire ici. Non. Mais il peut s'avérer utile de souligner les exemples de 1984 pour lesquels je peux trouver des parallèles directs avec des événements réels qui se sont produits depuis la disparition de George. Et, ce faisant, d'évaluer l'importance de ce livre en tant que boussole politique qui peut encore être utilisée dans le monde malheureux d'aujourd'hui. Orwell pensait qu'aucun écrivain n'était libre de choisir n'importe quel sujet, mais que son œuvre serait inévitablement influencée par l'époque dans laquelle il vivait. Au cours de mon séjour sur cette planète, c'est l'Empire américain qui a jeté de loin l'ombre la plus longue sur le monde. Il est donc naturel que je réfléchisse à cette entité en particulier. L'ordre dans lequel les exemples apparaissent reflète, à mon avis, une cause croissante d'inquiétude conçue, non sans le vouloir, pour maximiser le son d'alarme dans la psyché de mon public. La novalangue. Eh oui, c'est la langue qui a remplacé l'anglais dans le monde moderne de 1984. Il s'agit essentiellement d'une version fortement tronquée de l'anglais, sciemment et volontairement réduite au fil du temps par le parti, conçue de manière à limiter le vocabulaire dont dispose un dissident pour critiquer le statu quo. Un phénomène similaire s'est produit dans le monde réel. L'avènement et l'assimilation extrême de la télévision dans la vie moderne ont eu un grand impact énorme sur la langue au cours du siècle dernier. On a vu que ça s'est vraiment détérioré. La plupart des gens l'ignorent. Mais nous sommes en fait des penseurs beaucoup plus visuels et beaucoup moins verbaux au 21e siècle qu'à l'époque précédente. Également, l'intelligence aurait également pris un calice de coups, mais ça, on reviendra plus tard. La télévision et les médias, en général, ont facilité la réduction de l'utilisation de la langue en éloignant les gens de l'écrit la plupart du temps. À mon avis, l'écrit est de loin la forme de communication la plus précise, la plus informative et la plus éducative. Je m'y mets du mieux que je peux sur disto.ca à tous les jours. À l'exception des situations abstraites telles que les mathématiques ou les arts visuels, il n'existe pas de moyen clair d'exprimer ses pensées. L'écrit nécessite donc une réflexion profonde et organisée pour être produit, et il laisse une impression beaucoup plus longue et plus claire sur l'esprit lorsqu'il est consommé. Plus nous regardons la télé, moins nous lisons et, par conséquent, moins nous possédons de vocabulaire et d'expressions créatives. Et comme la capacité linguistique à informer nourrit nos pensées, moins nous sommes capables de communiquer clairement. La télévision n'a pas été inventée dans ce but, mais elle a été très certainement encouragée et façonnée par les entreprises pour obtenir cet effet apparent. La double pensée également, la capacité d'une personne à maintenir ensemble deux faits inconciliable dans son esprit en évitant l'observation consciente de la contradiction évidente. En 2016, on trouve des exemples similaires à la double pensée. Pendant des décennies, les hommes politiques américains et également canadiens ont célébré et glorifié la propagation de la démocratie qu'ils ont réussi à instaurer dans le monde. La diffusion de la démocratie est une belle idée. C'est en fait une idée sur laquelle la plupart des gens du monde occidental pourraient être d'accord. si elle était vraiment authentique. Ça, c'est loin d'être clair. Mais tout le monde sait en même temps que la diffusion de la démocratie implique en réalité un processus horriblement sanglant. Il commence généralement par un gouvernement que les puissances économiques américaines jugent intolérable et qui doit être chassé pour faciliter la libre circulation des profits de la région en question. Le gouvernement occupant est alors qualifié d'instable par les médias occidentaux, ce qui n'est qu'un euphémisme pour dire économiquement indésirable pour les États-Unis d'Amérique. Lorsque ce discours est suffisamment ancré dans la population, le pays concerné est rapidement envahi par l'armée américaine ou, pire encore, par des milices allouées soutenues par les Américains dans le coin. Une guerre longue et sanglante s'ensuit, au cours de laquelle des millions de civils innocents sont tués, mutilés, traumatisés, torturés, jusqu'à ce que le sang versé soit suffisamment pour on veut des quantités de sang pour permettre l'installation d'un régime plus démocratique et plus favorable aux Américains. Vous pensez que je vais trop loin? Jetez un coup d'œil à l'histoire récente de l'Argentine, du Nicaragua, de Cuba, du Honduras, du Vietnam, de l'Indonésie, de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, pour n'en citer que quelques-uns. Il faut se rappeler que les États-Unis d'Amérique ont participé à plus de 185 guerres depuis 1945. 20 millions de personnes ont été tuées au cours de l'héroïque diffusion de la démocratie. Deux minutes de haine, c'est le temps alloué par le parti pour que tous les membres de la société épuisent collectivement leur rage contre Goldstein, l'ennemi mortel du parti et donc de tous les membres de la société. Aujourd'hui, la télévision joue un rôle énorme en fournissant subtilement des images qui transformeront les mécontentements et les frustrations des individus en les éloignant des causes réelles et en les orientant vers un ennemi potentiellement fictif, par exemple, les musulmans. Mais ça fait partie de l'histoire. En réalité, la plupart des citoyens en détresse ont plus en commun avec les musulmans de la classe ouvrière vivant à l'autre bout de la planète qu'avec les entreprises et les forces politiques de leur pays d'origine. Mais les médias et les techniques qui leur sont associées sont utilisées à dessein pour susciter la haine parmi les éléments les moins éduqués de nos sociétés. Des comportements tels que l'homophobie et l'islamophobie sont encouragés par certains partis politiques et certaines religions qui ont un intérêt commun à convertir la frustration de l'individu en une soif de guerre dans le but d'obtenir le soutien populaire nécessaire. La montée des partis d'extrême droite dans de nombreuses régions du monde à laquelle nous assistons en ce moment repose toujours en grande partie sur l'incitation à la haine de deux minutes, sous une forme ou une autre, au sein de sa population électorale. Si la plupart de ces électeurs comprenaient vraiment les résultats probables des politiques économiques et environnementales de l'extrême droite, ils choisiraient certainement de soutenir des idéologies plus socialistes. Mais le débat politique se concentre intentionnellement sur des questions plus émotionnelles et génératrices de peur, mais moins importantes telles que l'immigration, le terrorisme et le mariage gay.
Vous savez parfaitement bien ce qui ne va pas chez vous, Winston. Vous le savez depuis longtemps, bien que luttant pour l'ignorer. Vous êtes mentalement dérangé. Vous souffrez d'une mémoire nettement défectueuse. Vous ne vous en êtes jamais guéri, car vous n'avez pas choisi de le faire. Il aurait fallu un petit effort de volonté que vous n'étiez pas prêt à faire. Par exemple, contre quelle puissance l'Océanien est-elle en guerre présentement?
L'Estasia. L'Océania est en guerre avec l'Estasia.
L'Estasia. Bien. Et l'Océania n'est-elle pas depuis toujours en guerre avec l'Estasia? Dites-moi ce que vous croyez vous rappeler.
Je me rappelle que tout juste une semaine avant que l'on vienne m'arrêter, nous n'étions pas du tout en guerre avec l'Estasia, mais avec l'Eurasia. Cela a duré 4 ans, je crois.
Un autre exemple, une autre grave errance. Les photos à propos desquelles vous avez eu des hallucinations, vous avez cru les avoir entre les mains. Elles n'ont n'ont jamais existé. Dites ce que vous vous apprêtiez à dire.
Elles existent. Dans la mémoire. Moi, je m'en souviens. Vous, vous vous en souvenez.
Je ne m'en souviens pas. Seul un esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. Cela exige un acte d'autodestruction, un effort de la volonté. Vous rappelez-vous avoir noté dans votre journal « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 ».
Oui.
Combien de doigts je vous montre là, Winston ?
4.
Et si le parti dit que ce n'est pas 4, mais 5 doigts, alors combien ?
5.
Non. C'est inutile. Vous mentez. Combien de doigts, je vous prie ?
4. 4. Que puis-je vous dire d'autre ? 5, 4. Ce que vous voulez. Je vous en prie, laissez-moi. J'en peux plus.
La rééducation. J'en fais souvent allusion dans mes tweets pour rire du système sur Twitter. C'est l'issue idéale du parti pour les dissidents capturés. Il ne s'agit pas d'assassiner ou d'expulser ceux qui s'opposent au parti, mais de les torturer sans relâche jusqu'à ce qu'ils aient converti la psyché de l'individu en une psyché totalement compatible avec celle de l'État. Le régime néolibéral américain a, en fait, engagé et facilité des activités similaires au cours des 4 dernières décennies. Alors que cette puissance mondiale incontestée a progressivement exercé son hégémonie économique sur le monde, bon nombre de gouvernements mis en place dans le cadre de ce processus ont continué à utiliser ces méthodes pour assurer leur contrôle politique. Il est bien établi que la CIA a dépensé et dispensé une formation aux techniques de torture à de nombreux pays mentionnés parce que là, ça prend une expansion sans fin. Ils veulent conquérir la planète à grandeur. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme « dépenser » parce que ça se fait à coups de dollars, tout ça. Le général Pinochet et Guantanamo Bay, pour n'en citer que quelques-uns, la plupart de ces faits sont trop horribles pour que l'occidental moyen puisse les digérer et l'incrédulité confiante est la réaction normale. Alors, la plupart de ces activités odieuses ont été bien documentées et peuvent être facilement découvertes si l'on prend le temps de lire l'histoire récente. Lorsque nous évaluons la bonté générale des États-Unis d'Amérique, nous ferions bien d'inclure ces événements-là. Le ministère de la Vérité et l'appareil gouvernemental chargé de réécrire, de façonner et de contrôler efficacement l'histoire. À l'aide d'une petite armée d'employés des médias, le parti supprimait et modifiait constamment les articles de journaux et les événements du passé afin de faciliter les mensonges nécessaires du présent. Les médias d'entreprise du monde actuel ne sont pas une machine aussi efficace que la censure incarnée par George Orwell, mais ils sont capables de construire une vision horriblement étroite et mal informée de la réalité pour le citoyen moyen. Dans une large mesure, les gens sont tenus à l'écart des questions politiques les plus importantes par le processus de distraction. C'est un barrage constant de publicité qui bombarde nos yeux et nos oreilles avec des émotions et des désirs sexuels utilisés intentionnellement comme à pas, à la fois pour augmenter notre désir de consommation et pour nous empêcher de nous pencher sur les questions les plus importantes de notre société. Ensuite, le format d'information le plus répandu, auquel la plupart des gens sont exposés, est sciemment tronqué et biaisé pour contrôler le dialogue social ou pour fabriquer le consentement, en quelque sorte. Tu vas écouter, esclave. De nouvelles et des nouvelles qui devraient être d'une importance capitale sont réduites à des flashs de 2 minutes et sont présentées entre 2 clips de taille réduite sur des potins de célébrités et des prouesses athlétiques, comme s'il s'agissait d'événements d'égale importance. L'information est devenue terriblement réductionniste, un produit vendable, pire que tout, une forme de divertissement. Chris Hedges a commenté un jour l'état du journalisme nord-américain. Si vous vous souciez plus de la vérité que de votre carrière, vous ne ferez pas long feu dans ce domaine. C'est incroyable. Cela illustre succinctement le processus de filtrage massif qui existe au sein de la machine médiatique moderne.
Mes agents ont fait de faux documents, ont infiltré le ministère de la vérité.
Le crime par la pensée est la mort. Le crime par la pensée n'entraîne pas la mort.
J'ai délibérément écoulé
Il est la mort.
Voilés pour camion. Ainsi,
J'ai bon commis, soldats, avant même de le coucher par écrit, le crime décisif qui inclut tous les autres.
J'ai passé plusieurs heures de mon temps libre à encourager mes agents à lacérer les affiches du parti et les panneaux slogans. J'ai lu et mémorisé le livre de Goldstein. Pendant 30 ans, j'ai conspiré dans le but d'abattre le parti. J'étais malade au physique et au moral. Avec mes collègues Aronson et Rutherford, j'ai falsifié d'importants documents du parti, dont des permis d'ex-londoniens et des laissez-passer de voyage. Et en utilisant ces documents, mes agents ont circulé librement en aérozone 1, encourageant l'insurrection et organisant un gigantesque complot pour détruire le cœur même de la classe dirigeante de l'Océania. Qui plus est, j'ai usé de ma situation de privilégié au sein même du parti intérieur pour fausser et trahir la vérité à tout moment et pour suggérer en toute occasion que notre allié traditionnel est l'Estasia, alors qu'elle est en fait notre ennemi mortel.
4 avril 1984.
Ma position de chef de planification d'usine,
je crois,
m'a permis de voler des plans militaires et de les revendre en en tirant un vaste profit aux dirigeants eurasiens.
Au passé,
j'ai été
au futur, à un âge où la pensée va libre, du fond de l'âge de Big Brother, du fond d'une ère de la police de pensée, du fond d'un homme mort. Salut.
Big Brother is watching. On te surveille. C'est la surveillance omniprésente et incessante de l'ensemble de la population mise en place pour identifier et éliminer immédiatement toute dissidence à l'égard de l'État. En 2016, nous n'avons pas encore atteint ce stade, mais il est effrayant de constater que nous n'en sommes pas très loin. La NSA et au Canada, le CST surveillent les courriels, les appels téléphoniques, les SMS, les termes de recherche, les habitudes d'achat et le comportement en ligne d'autant de personnes que son réseau le permet. Les fuites de Snowden en 2013, qui ont révélé ces faits, ont horrifié le public dans le monde entier, mais aucune mesure n'a encore été prise pour inverser cette trajectoire. Dans la situation politique actuelle et surtout dans le post-COVID, cette étendue extrême de la surveillance est déjà inquiétante. Mais il se pourrait que nous soyons qu'à un ou deux mauvais dirigeants d'une véritable dictature orwellienne. Un genre de Justin, par exemple? Pas impossible. Tous les éléments nécessaires sont en place. Je ne pense pas exagérer cette réalité inconfortable qu'on vit tous en ce moment. Nous devrions être réellement inquiets de ces faits si l'on se concentre exclusivement sur les exemples que j'ai énuméré plus tôt, le monde actuel commence à ressembler de manière effrayante à celui du roman 1984 de George Orwell. Il est facile pour ceux d'entre nous qui vivent en Occident de se protéger ou de nier ce point de vue-là, parce que nous nous sommes rarement exposés à toutes les vérités et parce que nous sommes en partie complices de cette démocratie, puisqu'il s'agit, d'une notion admirable et qu'elle nous a apporté beaucoup de prospérité à l'intérieur de nos vies. Mais au point de vue des innocents qui vivent dans de nombreux endroits dans le monde, l'image de l'Empire américain n'est peut-être pas si flatteuse. peu avant sa mort, Orwell a déclaré à un journaliste :
Le message de ce livre est simple, ne laissez pas les choses se faire.
Si George Orwell pouvait regarder le monde d'aujourd'hui, il serait peut-être obligé de nous dire que nous n'avons pas tenu compte de son avertissement au travers de son roman. Merci d'avoir été à l'écoute de ce Disto Show 64. Je vous encourage à aller lire une multitude d'articles, de textes, de regarder des vidéos également sur mon site internet disto.ca. J'espère vous rencontrer sur Twitter et peut-être même en personne à un moment donné lors d'un événement. À la prochaine.